tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour à tous les auditeurs des Landes et ma nature. Aujourd'hui, notre émission est allée à la rencontre de Sabine Charles, qui est cadre infirmière à Mont-de-Marsan et qui a un très beau projet sur la commune de Basconce, un projet de plantation d'arbres sur un très grand terrain dont elle va nous parler maintenant. Sabine, je te passe la parole.
Bonjour Jeanne-Marie. Donc, je m'appelle Sabine, j'ai 51 ans, j'ai une petite fille qui a bientôt 10 ans, je suis mariée et effectivement, je suis sur un projet actuellement qui démarre depuis 2 ans d'agroforesterie. Pour mon parcours, donc je suis infirmière, je ne suis pas du tout dans l'agronomie, dans l'agriculture. Pour l'instant, je suis infirmière et enseignante à l'école d'infirmières de l'hôpital de Mont-de-Marsan. J'enseigne la santé publique, la recherche, les soins éducatifs et préventifs. Voilà, donc pour vous parler un petit peu de ma trajectoire de vie, mes premiers souvenirs sont liés déjà à la nature. J'ai le souvenir de voir mon grand-père dans la Drôme qui était agriculteur. Et je me vois toute petite assise dans un champ à regarder mon grand-père labourer avec 2 bœufs. Je me souviens aussi de l'étable qui était pleine de bœufs et cette odeur de fumier d'étable. Je me souviens aussi dans toutes mes toutes premières années de vie, je devais pas forcément bien marcher à l'époque, d'être dans un champ de lavande où je vois les membres de ma famille regroupés tous ensemble et avec les faucilles aller récolter la lavande en gerbe, sans mécanique, et aller les porter pour faire de l'essence de lavande. Voilà, ça c'est mes premiers souvenirs, des souvenirs éclairs, très lumineux. Voilà, puis j'ai grandi. J'étais fille de militaire, on déménageait tous les 2 ans. On a un peu parcouru toute la France et adolescente, je retrouvais aussi dans le fait de grimper dans les arbres, d'être dans un jardin, de passer l'été chez mes grands-parents dans la Drôme, ce recontact avec la nature, on gardait les chèvres avec mes cousines. Donc on se levait très tôt le matin à 6h pour aller les traire, les sortir dans la montagne, passer la journée avec elles et le soir les ramener dans l'étable pour les traire à nouveau. Et voilà, ça c'est des souvenirs qui m'ont beaucoup marqué et puis qui ont été surtout associés à de la joie, à du bien-être, à du partage.
Alors le choix de la profession d'infirmière, s'est-il imposé ou bien est-ce que ça a été plutôt une direction que tu as choisie après réflexion? Tu avais peut-être le choix entre plusieurs métiers?
Effectivement, j'ai eu le choix entre les beaux-arts parce que j'aimais beaucoup dessiner et sculpter. Et ma maman était infirmière. Donc, ayant échoué au concours des beaux-arts à Paris, c'est vrai que je me suis tournée vers la profession d'infirmière comme ma maman. Et puis, je pense que j'avais des prédispositions. J'étais vraiment très tournée vers le bien-être. Je pense que dans ma personnalité, un trait assez particulier qui est l'empathie. Que ce soit pour les humains, que ce soit pour les animaux, je suis très empathique et soucieuse du bien-être des autres. Et donc, naturellement, je me suis retrouvée dans cette profession de soins, d'abord de soins curatifs puisque j'ai fait mes études à Paris à l'assistance publique et puis à un moment donné j'ai eu l'envie étant jeune de parcourir le monde et d'exercer mon métier d'infirmière dans l'humanitaire. Pour ce faire, je me suis formée à Bordeaux à IFED où j'ai acquis des outils d'analyse pour décrypter un petit peu les contextes géopolitiques, les outils, les grands programmes internationaux de santé. Et je suis partie pendant 4 ans faire de l'humanitaire, notamment dans des pays en guerre, Irak, Tchétchénie, l'Afrique des Grands Lacs. Donc j'ai découvert des pays en guerre, j'ai découvert des populations qui étaient dans une extrême souffrance, voire dans la survie. Donc vous imaginez avec toute l'empathie que j'avais déjà, j'avais un sentiment d'utilité, d'efficacité. J'ai découvert la notion de collaboration. Pour vous citer juste un exemple, j'ai fait partie d'une mission de lutte contre le choléra. C'est une maladie extrêmement mortelle puisque en l'absence de traitement, elle tue un individu sur 2 en quelques heures. Et c'est une maladie qui s'attrape notamment dans l'eau avec le vibrion qui vit dans l'eau. Alors c'est vrai que moi en tant qu'infirmière dans les dispensaires, je pouvais former les infirmières, en l'occurrence là-bas c'était l'Ouganda, des infirmières ougandaises à donner des comprimés pour tuer le vibrion. Le problème c'est que c'est une maladie extrêmement contagieuse et il suffisait qu'un malade du choléra contamine un point d'eau et là, c'est tout le village qui flambe. Là, par exemple, j'ai découvert que moi, en tant qu'infirmière, j'avais une efficacité de soins pour soigner les gens. Mais si à côté de ça, je n'avais pas un logisticien qui décontaminait les vomissements, les diarrhées et qui empêchait ces liquides biologiques d'aller contaminer des points d'eau, des puits, des sources, des rivières à côté, si j'avais pas de logisticien qui aménageait, qui creusait des latrines, des toilettes sèches pour contenir ces liquides biologiques, eh bien moi je pouvais toujours soigner, distribuer des antibiotiques et perfuser. À côté de ça, nous allions être complètement débordés par les villageois qui auraient été contaminés. Donc c'est ce travail d'équipe qui était passionnant et en même temps qui m'a fait prendre conscience que la question de la santé n'est pas qu'une question des soignants, c'est pas qu'une question qui intéresse que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les kinés et les diététiciens, c'est vraiment toute la logistique qui va autour, qui permet notamment dans un cas d'une épidémie par exemple, de contenir cette épidémie. Et l'actualité nous rappelle que si nous n'avons pas de masques, eh bien effectivement, si on n'a pas de gens qui font les masques, si on n'a pas des gens qui remplissent des bouteilles d'oxygène, ben nous médecins, infirmiers, on aura quand même des capacités assez limitées de traiter et de limiter le nombre de personnes.
Donc après cette longue expérience dans l'humanitaire, Sabine, donc tu es rentrée en France et tu es redevenue infirmière dans un hôpital français.
Alors je suis revenue en France effectivement, mais je me suis dit que peut-être je pouvais bonifier mon expérience en étant dans la transmission. Donc je suis devenue cadre infirmier formateur, où là j'ai pu enseigner la santé publique, les soins éducatifs et préventifs, etc. J'ai trouvé ma place dans l'équipe de formateurs parce que j'avais cette sensibilité que j'avais pu développer pendant ces 4 ans sur les aspects plutôt préventifs, éducatifs, la notion de travail, de collaboration avec différents professionnels qui peuvent du coup améliorer la santé des gens.
Sabine, nous arrivons à la fin de ce premier volet et il est temps que tu nous proposes une première chanson.
Alors, la chanson que j'ai choisie, c'est Mickey 3D Respire. C'est une chanson qui aborde en fait le poids que l'humanité peut avoir sur l'exploitation des ressources naturelles. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on arrive à certaines limites. On observe depuis 40 ans un effondrement de la biodiversité. Et donc, Mickey 3D dénonce un petit peu cet aspect-là, la pression que l'on exerce sur l'écologie et l'intérêt de peut-être ralentir un petit peu et de recevoir aussi, d'être à l'écoute de cette nature pour notre propre bien-être, pour notre propre santé physique, mais aussi psychologique, je pense.
Toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer, les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière, on a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires.
Nous allons reprendre notre second volet de l'émission L'élan de ses manatures avec Sabine Charles, qui est cadre infirmière, mais qui a aussi un beau projet d'agroforesterie. Alors, comment passe-t-on d'infirmière, puis ensuite de professeur à l'école d'infirmière, métier qui est quand même très prenant, à un projet d'agroforesterie qui est tout aussi prenant?
Alors, de par mon métier, étant très très versée sur la santé, et notamment grâce à l'humanitaire ayant développé des compétences en prévention et en éducation à la santé, il me semble à un moment donné que, notamment, ne serait-ce qu'en partant de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit finalement que la santé est un état de bien-être biopsychosocial, il manquait une dimension qui est devenue très importante pour moi, qui est d'un individu en interaction continuelle avec son environnement. Aujourd'hui, en étant enseignante et en enseignant la santé publique, lorsque je vois que 11 millions de Français sur 67 millions ont une maladie chronique aujourd'hui au titre de l'affection longue durée, eh bien, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il qu'en en moins de deux générations, on voit des maladies chroniques exploser, et notamment chez les enfants? Ce n'est pas forcément que lié à l'espérance de vie qui avance. Du coup, voilà, je me suis interrogée sur l'interaction, comment l'environnement pouvait peser sur la santé des gens. Et ça, c'était vraiment mes lectures. Je ne regarde plus la télé. Je lis beaucoup d'articles scientifiques, notamment japonais. Je fais des recherches. Et donc, c'était une question en filigrane. Il s'est avéré dans ce questionnement qu'en 2015, j'ai un grave accident. Et suite à cet accident, 11 fractures, dont une fracture ouverte du genou. Je me retrouve 6 mois bloquée sur un fauteuil roulant, enfermée dans mon salon sans pouvoir même sortir. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je peux plus travailler. Peut-être que là, t'as quelques mois devant toi. Fais un petit peu ce que tu as toujours eu envie de faire, mais tu n'avais pas le temps. Voilà, je passais mes journées à lire. Et en lisant, bah, je découvre des rapports très alarmants scientifiques sur l'effondrement de la biodiversité, sur le réchauffement climatique. Moi, je venais d'avoir une petite fille qui avait à peine 4 ans à l'époque, et je me dis, mais qu'est-ce que je lui propose comme avenir? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et je découvre le mot permaculture. Et à travers, en lisant toute la journée, en voyant des vidéos sur la permaculture, je m'aperçois qu'en fait, c'est peut-être une voie, des solutions qui sont abordables, qu'on peut mettre en place nous-mêmes et qui peuvent effectivement permettre d'être en meilleure santé en produisant notamment des légumes sans intrants chimiques, qui peuvent ralentir le réchauffement climatique, ne serait-ce qu'en plantant des arbres et en stockant le carbone dans le sol, que ça peut être un système régénératif, c'est-à-dire que non seulement il ne ralentit pas la dégradation des écosystèmes, mais au contraire, il les répare, il les régénère. Et donc pour moi, le mot permaculture est devenu mon fil d'Ariane, ma planche de salut. Et pendant ces 6 mois où j'étais bloquée sur mon fauteuil roulant, j'ai découvert tout l'univers de la permaculture. Alors du coup, j'ai essayé de vouloir, une fois que j'ai récupéré toutes mes facultés physiques, j'étais en recherche d'un terrain non constructible pour faire des expérimentations en permaculture. J'ai cherché pendant 2 ans et demi, tous les jours sur les petites annonces, dans les agences immobilières, impossible. J'ai fini par écrire dans les mairies à moins de 15 km de chez moi. Et en 15 jours, j'ai une réponse d'une personne qui souhaitait vendre. Donc, on a été visiter le terrain. Alors, moi qui cherchais, allez, 2000, 5000 mètres carrés maximum, puisque je suis infirmière quand même, je me suis vue face à un champ qui faisait 3,80 hectares. Or, le prix du terrain correspondait exactement à la somme que j'avais épargnée. Alors, ben, du coup, je me suis dit, c'est un signe. Et j'ai acheté ce champ qui était cultivé en maïs conventionnel depuis des années.
Il a fallu bâtir le projet pour transformer ce champ. Comment as-tu procédé? Est-ce que tu avais un plan avec des étapes? Comment ça s'est passé?
Quand je cherchais 2000 à 5000 mètres carrés de terrain non constructible à moins de 15 km de chez moi, c'était plutôt pour essayer de faire des buts de permaculture. Quand je me suis vue face à 3,80 hectares, forcément mon projet a évolué. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire un jardin forêt où je vais planter des arbres. Je vais restaurer un petit peu un écosystème qui va re-accueillir la biodiversité. Alors, en permaculture, j'avais fait une formation à Rayon des Landes à l'école Eugéno de 12 jours en permaculture. On nous dit, pour monter un projet, il faut observer sa parcelle pendant au moins un an, les quatre saisons. Observer le vent, la direction du vent, son intensité, le passage du soleil en hiver, en été, voir un peu la qualité du sol. Là, effectivement, en permaculture, il y a un autre rapport au temps. Et moi, je l'avais, je ne suis pas agricultrice, je n'ai pas cette pression-là. Donc du coup, le temps d'observer ma parcelle pendant un an, je me suis dit, je vais déjà planter des... Je vais planter des haies en attendant d'observer tous ces éléments-là. J'ai planté des haies diversifiées tout autour de la parcelle pour faire... Alors, le premier objectif étant de faire revenir la biodiversité. J'ai planté des essences d'arbres qui pouvaient abriter les oiseaux, qui pouvaient abriter les hérissons. Donc, un tiers de feuilles persistantes avec quelques épineux, bien sûr, pour les protéger. Mais j'ai également, dans ces essences de haies, choisi des fixateurs d'azote. Fixateur d'azote, c'est un arbre qui va prendre dans les 78% d'azote atmosphérique. Cet azote va le remettre dans le sol et le mettre à disposition au niveau racinaire pour lui-même et pour les plantes autour. Bien sûr, des haies gourmandes dans lesquelles effectivement on va trouver des fruits, mais des fruits qui vont produire pour certains en janvier, d'autres en juillet, d'autres en novembre. Voilà, faire en sorte que les récoltes elles vont s'étaler sur toute l'année, que je ne sois pas obligée de tout récolter en même temps.
C'est une réflexion très élaborée qui a dû demander beaucoup de travail. Sabine, que nous proposes-tu comme chanson?
Alors, du coup, moi, j'ai pensé à Zazie. À Zazie, je suis un homme. Zazie, à travers cette chanson, dénonce un petit peu la prééminence de l'humain sur son écosystème. Et enfin, personnellement, je pense qu'il faut réinterroger la place de l'homme dans son écosystème. En tant qu'infirmière, je sais bien qu'effectivement, il y a une interaction entre l'écosystème et la santé humaine et qu'il faut peut-être qu'on ne se situe pas forcément au-dessus de la nature, mais dans la nature.
Je suis le roi de l'illusion.
Pour notre troisième volet de l'émission Les Landes, c'est ma nature, chez Sabine Charles, qui est cadre infirmière et qui a un beau projet d'agroforesterie, bien maintenant, elle va nous expliquer en détail son projet ainsi que les perspectives d'avenir.
Alors tout à l'heure, j'évoquais les haies. Hein. C'est ce que j'ai planté dès les premiers mois d'acquisition de ce champ, en attendant d'observer comment le vent, le soleil circulaient, la nature du sol. Et j'ai expliqué un petit peu le choix des essences qui étaient en faveur de la biodiversité, les haies pouvant non seulement nourrir la biodiversité, l'abriter des intempéries, mais aussi nous nourrir hein, toute l'année. Dans le même temps, j'ai fait creuser deux mares. Alors, en respectant la législation, moins de 2 mètres de profondeur, moins de 100 mètres carrés d'étendue. Et dès les premières semaines, j'ai vu la biodiversité arriver. J'ai vu les traces des chevreuils, des hérissons, de certains hérons sur le bord de la mare qui venaient s'abreuver. Les abeilles, les insectes venaient boire. Les libellules sont arrivées, les grenouilles, les tritons. Toute une faune s'est installée. Mais dès les premières semaines où les mares se sont remplies, donc qui m'a confortée dans le fait qu'effectivement il fallait des points d'eau si je voulais effectivement faire revenir de la faune. Et actuellement, nous sommes en train de creuser une troisième mare à la Fourche Bêche pour encore plus proposer de points d'eau et drainer un petit peu ce champ qui est très argileux.
Alors il y a de très jolis noms pour ces mares d'ailleurs.
Oui, alors effectivement, ma fille a beaucoup d'imagination, donc on a trouvé la Maracasse, la Marathon et la Marmelade. Donc voilà, donc on met un petit peu d'humour, ce chant c'est aussi de la joie, c'est aussi de l'enthousiasme, donc voilà, on a mis un petit peu l'humour de notre fille dans ce chant.
Les espèces d'arbres alors ?
Alors les espèces d'arbres effectivement, alors je n'ai pas planté de fruitiers, pommiers, cerisiers, j'ai pas sauté dessus. Actuellement j'ai planté beaucoup d'espèces locales, parce que si vous plantez des arbres locaux, qui sont habitués à notre climat, à nos sols, eh bien ils ont une résilience importante. Et puis du coup, j'ai moins besoin éventuellement d'envisager de les soigner, de les arroser. Ces arbres en plus ont notamment une pousse très rapide. Par exemple, j'ai des aulnes qui aiment bien avoir les racines dans l'eau, dans des sols très lourds. Donc j'ai des aulnes qui poussent 1 mètre par an pour l'instant, qui vont d'ici 2-3 ans faire de l'ombre. Et à l'ombre desquelles, je vais pouvoir planter mes fruitiers qui supporteront mieux le réchauffement climatique en ayant quelques heures d'ombre dans la journée, qui souffriront moins, je pense, du réchauffement climatique. J'ai planté du bouleau. Le bouleau, il faut savoir, c'est presque 150 insectes différents qui vont aller s'installer grâce au bouleau, des espèces endémiques. Et dans ces insectes qui vont s'installer dans le bouleau, il y aura certainement des prédateurs d'autres insectes qui seraient des ravageurs d'autres essences. C'est-à-dire que plus vous allez proposer d'arbres, et plus ils vont héberger une large variété d'insectes et d'animaux qui vont eux-mêmes être les prédateurs peut-être d'une cochenille, de pucerons, d'altises, de pyrales. Voilà, donc en proposant un maximum d'essence, au-delà de 30-35, une forêt devient beaucoup plus résiliente parce qu'elle va héberger un tel nombre de prédateurs, de champignons, de bactéries, d'oiseaux, que ben, du coup, ils vont s'auto-réguler et empêcher des ravageurs d'envahir l'espace.
Alors, je crois qu'avec ta famille et des amis, tu as planté beaucoup d'arbres.
Alors oui, en un an et demi, nous avons planté 530 arbres à ce jour, sans compter les plantes, romarin, lavande, absinthe, consoude, bourrache. Voilà, on a planté 530 arbres, voilà, donc pour favoriser cette résilience et accueillir un maximum de biodiversité, de faune, voilà. Dans ces arbres-là, il y a des arbres qui vont filtrer le sol, notamment filtrer des intrants chimiques qui ont été déposés par l'eau, par plein d'activités humaines, qui vont aussi donc apporter de l'azote, je le disais tout à l'heure, fixateurs d'azote comme l'acacia, comme l'albizia, contre les éléagnus, les zones qui vont fixer l'azote dans le sol, donc apporter à manger aux autres végétaux qui vont restructurer le sol. Par exemple, j'ai une semelle de labour à 50 cm de profondeur. C'est un sol argileux qui a été compacté par le passage d'un tracteur. facteur, bien par le système racinaire, certains arbres ont des racines pivotantes, vont aller casser cette semelle de la boue et faire que dès qu'il pleut, bien l'eau va s'infiltrer dans la nappe phréatique grâce à ce système racinaire qui casse la semelle de la boue. C'est des petites choses, enfin ces arbres vont aussi améliorer encore le sol et chaque automne, avec les feuilles qui tombent, rendre l'humus au sol et permettre aux vers de terre de se développer, aux collemboles, à toute une petite faune qui est dans le sol et qui va aérer le sol et qui va notamment permettre non pas à mon sol de repartir dans les rivières lors des fortes pluies, c'est ce qui va nous attendre avec le réchauffement climatique, mais au contraire à cette eau d'être infiltrée coup par coup. Il faut savoir que le sol d'une forêt absorbe jusqu'à 5 mm de pluie par heure. Ce qui est énorme. Donc voilà, en refaisant de la forêt sur ce champ, je vais permettre à l'eau à nouveau de s'infiltrer à chaque intempérie et à aller réalimenter les nappes phréatiques. De l'eau qui sera en plus filtrée, puisque le système racinaire des arbres va filtrer les molécules qui pourraient éventuellement aller s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Va aller capter les nitrites, notamment pour les empêcher d'aller dans les nappes phréatiques.
Ce projet est donc bien enclenché. J'imagine qu'il a fallu donner énormément de temps alors que tu travaillais.
Oui, alors c'est vrai qu'au début, la première année, c'était tous les dimanches matins quand ma fille et mon mari étaient au golf, bien je m'octroyais une demi-journée pour travailler, pour planter, pour pailler mes arbres. Et l'année dernière, mon mari a pris conscience un petit peu de l'intérêt de ce projet, a arrêté le golf et de ce fait maintenant, depuis un an, il m'aide beaucoup sur le champ. Je me suis aussi appuyée sur les compétences de gens qui avaient beaucoup plus d'expérience et dont c'est le métier, parce que moi je rappelle, je ne suis qu'infirmière et je n'ai pas vraiment de compétences en agronomie. Donc, par exemple, j'ai trouvé auprès de Jean-Charles Artaillou, Sylvain Chabin de l'association Les Deux Mains à la Terre, des compétences en permaculture agroforesterie qui m'ont beaucoup aidée à me poser des questions et à réfléchir ce projet. Ce projet n'aurait pas pu aboutir si j'avais pas aussi eu l'appui notamment de Mélanie Martin, qui, lorsque je suis passée devant la SAFER, la commission, a appuyé mon projet. J'ai eu le soutien aussi de Thibaut Chex, Vincent Lafitte, des jardins reconnaissants qui sont complètement dans la permaculture, qui m'ont beaucoup donné de conseils techniques, qui ont partagé aussi psychologiquement, m'ont apporté leur soutien. Voilà, donc j'ai pu effectivement aussi m'entourer de conseils techniques. De Ève aussi, qui est paysagiste en permaculture, m'a aussi conseillé pour la structuration du projet. Voilà.
Alors, à long terme, quel est donc l'avenir de ce grand champ d'agroforesterie ? Qu'est-ce que tu envisages ?
Alors, pour l'instant, je suis limitée parce que je consacre beaucoup de temps et d'énergie à mon travail, qui est formatrice à l'hôpital. Le jour où je n'ai plus cette contrainte-là, où je serai peut-être à la retraite, bien, j'aimerais continuer. Alors, j'aurai acquis beaucoup d'expérience. Mes arbres auront eu le temps de pousser. Je continue à me former pendant tout ce temps-là. Et j'aimerais que cet endroit devienne un lieu de transmission, de partage, de compétences. Et j'aimerais continuer, du coup, l'enseignement en organisant des ateliers, en proposant du jardinage participatif pour les récoltes, la transformation des produits. Cathy Séris, qui est actuellement pharmacienne et qui vraiment propose des ateliers avec cette compétence de pharmacienne, m'a donné toute une liste aussi de plantes médicinales. Donc, pourquoi pas aussi faire intervenir des gens compétents sur la production de tisanes, de plantes médicinales, de leur conservation, de leur utilisation. Voilà, que ce projet devienne aussi un écolieu sur lequel effectivement il y aurait de l'échange et du partage, de la transmission de connaissances.
Alors, rapidement, parce que malheureusement le temps nous presse, comment peut-on te contacter, Sabine ? Et ensuite, nous nous quitterons à grand regret.
Vous pouvez me contacter sur Messenger, Sabine Charles, éventuellement sur Facebook. Malheureusement, j'ai pas un équipement, j'ai pas d'ordinateur à la maison, donc je suis difficilement joignable par mail. Mais voilà, par Messenger, je fonctionne plutôt bien.
Merci beaucoup, Sabine. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi et j'espère que nos auditeurs apprécieront aussi notre échange. Adi Schatz.
Au revoir, merci beaucoup, Jeanne-Marie.
C'était Les Landes, c'est ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.
Les Landes, c'est ma nature. Le lundi, de 15h à 15h30. Rediffusion en trois parties. Le mardi, le mercredi et le jeudi, à 13h sur MDM.